Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à chacun d'entre vous, en particulier les personnes qui peut-être sont de passage. Et on est très content aussi de revoir Laura et Stéphane qui sont là au fond, avec leurs petits, j'imagine. Et on aura l'occasion aussi de vous saluer et de les voir. Eh bien, je voudrais commencer par la lecture de la parole de Dieu. Alors, je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Matthieu. Au chapitre 6, et nous lirons ces versets que nous avons déjà lus plusieurs fois durant ce mois, les versets 9 à 13, cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Après trois dimanches sur la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, nous parvenons ce matin à la fin de cette série de prédications sur le Notre Père. Nous avons vu comment cette prière était structurée avec trois demandes qui concernent Dieu et trois demandes qui concernent nos besoins. Oui, disons-le, nous sommes des êtres de besoin. Nous avons été créés pour vivre en dépendant de Dieu. Et à chaque fois que dans un élan de rébellion, nous nous détachons de Dieu, nous récoltons d'amères conséquences. Mais heureusement, nous avons dans cette prière, après la demande du pain quotidien, deux autres demandes. Deux demandes qui nous rappellent que d'un côté, nous avons accès au pardon de Dieu et que de l'autre, sa main n'est pas trop courte pour nous délivrer du mal. Ce sont les deux demandes que nous allons examiner ce matin. Deux demandes qui sont devenues nécessaires à cause de la présence du péché dans notre vie. Et dans ce monde. Deux demandes qui révèlent notre fragilité, toute notre fragilité, notre faiblesse face au mal, celui que nous commettons et celui dont nous sommes victimes. Deux demandes adressées à notre Père qui est dans les cieux et qui est attentif, tandis que nous sommes sur la terre, en proie aux péchés qui courront. Parce que le péché, effectivement, c'est le sujet douloureux de notre vie et de notre condition ici-bas. Il nous est impossible de nous en défaire totalement. Nous en faisons l'expérience chaque jour. Mais nous pouvons en même temps chaque jour compter sur l'aide et la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à prier ainsi, notre Père, en nous focalisant sur ces deux besoins que nous avons, son pardon et sa délivrance. Je voudrais donc commencer par le pardon. À quand remonte votre dernière dispute? Alors certains se mettent à réfléchir. À la maison, au travail ou avec le voisinage, les occasions ne manquent pas de se mettre en colère et de dire des mots qui dépassent notre pensée, de faire preuve de mauvaise foi, de soutenir son point de vue coûte que coûte par orgueil. Et dans cette dispute en question, peut-être à laquelle vous pensez, qui a eu tort? L'autre? Ou nous-mêmes? Ou les deux? Et est-ce qu'il y a eu une demande de pardon après? Est-ce qu'il y a eu une réconciliation après? Combien de relations demeurent brisées parce qu'il n'y a pas eu de demande de pardon, ni de pardon accordé? Et avec Dieu, à quand remonte notre dernière demande de pardon? En somme, comment envisager de poursuivre une relation sans le pardon? Comment envisager de poursuivre une relation sans le pardon? Le pardon est tellement nécessaire, à la fois dans nos relations entre nous et dans notre relation avec Dieu. Jésus enseigne ainsi ses disciples à prier pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En réalité, ici, la traduction française nous aide déjà beaucoup à comprendre ce que Jésus voulait dire. Parce qu'en fait, en grec, la formulation est beaucoup plus imagée. Je vous mets une version un peu plus littérale. Très littéralement, en grec, nous demandons « remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous remettons à nos débiteurs ». Voilà ce qui est vraiment dit en grec. Et bien sûr, dans la traduction, pour rendre cela plus accessible, nous avons traduit l'intention de Jésus ici, qui était de parler du pardon. Lorsque quelqu'un pèche, lorsque nous péchons, nous contractons une dette à l'égard de Dieu. Et si quelqu'un nous cause du tort, il contracte une dette à notre égard. Nous comprenons que cela signifie que nous devons quelque chose lorsque nous causons du tort. Nous devons quelque chose à quelqu'un qu'il nous faut payer, qu'il nous faut rembourser. C'est le langage de la dette. Or, quel est ce prix à payer pour une telle dette qu'est le péché ? Eh bien, selon la justice de Dieu, vous connaissez la réponse. Le prix à payer, c'est la mort. Nous avons cette dette envers Dieu que si Dieu ne nous remettait pas cette dette, la seule sentence qui nous reste, c'est la mort. Pour satisfaire la justice de Dieu, il faut que le pécheur paye. Sinon, Dieu n'est plus juste s'il ne fait pas payer le pécheur. Mais notre Dieu est en même temps, et c'est ça l'extraordinaire nouvelle de la Bible, notre Dieu est en même temps un Dieu de grâce qui nous remet nos dettes. Si Dieu nous pardonne, il ne nous demande plus de payer par notre vie. S'il nous pardonne réellement, eh bien, il ne nous demande plus de lui devoir quoi que ce soit. Nous ne lui devons plus rien. Nous n'avons plus de dettes. Mais en même temps, comme nous allons le voir dans un instant, c'est vrai qu'il ne nous demande pas de payer par notre vie, mais une mort est quand même intervenue pour que cette remise de dette soit possible. Oui, Dieu pardonne quand nous lui demandons pardon. Et dans l'Ancien Testament, nous avons de nombreux passages qui l'attestent. D'abord en Exode 34, où Dieu se présente de cette manière-là. Au verset 6 et 7, « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Notre Dieu ne traite jamais le coupable en innocent. Si nous sommes coupables, nous sommes coupables. Notre Dieu est toujours juste. Et il est juste, comme c'est mentionné ici, qu'il punisse la faute de ceux qui pêchent contre lui. Mais il est extraordinaire qu'en même temps, il soit lent à la colère, riche en bonté, plein de grâce et de compassion, et qu'il pardonne la faute. Nous devons noter qu'un Dieu juste est juste quand il punit la faute, mais il est incroyable lorsqu'il se met à pardonner cette faute. Et David, le roi David, en a fait l'expérience, toujours dans l'Ancien Testament. Nous voyons au moment où il est confronté à son propre péché, après avoir commis l'adultère et le meurtre, dans 2 Samuel chapitre 12, verset 13, nous lisons, David dit à Nathan, le prophète qui est venu l'interpeller, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Dans cette histoire, David reconnaît sa culpabilité et l'offense qu'il a commise à l'égard de Dieu. Son péché était l'adultère et le meurtre, comme je l'ai dit, et pour de tels crimes, selon la loi de Dieu, il méritait clairement de mourir. Mais voici cette parole de grâce. L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Et David, en ayant fait cette expérience du pardon de Dieu, va écrire dans le psaume 32, nous lisons les versets 1 et 5, « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux. » Et verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et qu'est-ce que Dieu a fait ? « Et tu as pardonné mon péché. » Un immense poids est enlevé quand le débiteur entend de la part de son créancier que sa dette est levée, qu'il n'a plus à payer. Le pardon de Dieu est un vrai pardon. Dieu ne garde pas rancune. Quand Dieu pardonne, il ne tient vraiment plus rigueur du mal que nous avons fait. Quand nous demandons à notre Père céleste « Pardonne-nous nos offenses » ou « Remets-nous nos dettes », nous le faisons avec confiance, parce que nous savons que notre Père est un Dieu qui pardonne la faute, la révolte et le péché. Nous le faisons avec confiance, nous lui demandons avec confiance, pardonne-nous, remets-nous nos dettes. Mais à quel prix Dieu pardonne ? Si notre dette a été effacée, c'est parce que quelqu'un l'a payée. De nouveau, dans l'Ancien Testament, Dieu donne des lois à son peuple, et en particulier dans le cas où son peuple a péché. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails des différents types de sacrifices qui étaient dans la loi de Moïse, mais à propos de l'un d'entre eux, nous lisons ceci, et on lira un petit peu ce texte dans Lévitique 4, les versets 13 à 21. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, si sans y prêter attention, elle a fait comme contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et s'est ainsi rendue coupable, et si le péché commis vient à être découvert, l'Assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente de la rencontre. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et l'on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le prêtre consacré par onction apportera du sang du taureau dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Puis il versera tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la brûlera sur l'autel. Il procédera avec ce taureau exactement comme pour le taureau expiatoire. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour eux et le pardon leur sera accordé. Il procédera avec ce taureau exactement, donc là c'est une répétition, mais vous notez bien la fin du verset 20. Il procédera avec ce taureau exactement comme pour le taureau expiatoire, c'est-à-dire le taureau qui est sacrifié pour le péché. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation, en ayant égorgé l'animal, en ayant versé son sang dans l'attente de la rencontre, et le pardon leur sera accordé. Donc, il y a une mort qui est intervenue pour que le pardon puisse être possible. C'était le sacrifice ici apporté en cas de péché involontaire. Oui, le péché même involontaire que nous n'avions pas l'intention de commettre reste une dette à l'égard de Dieu. Et seule la mort par substitution, la mort qui remplace celle que devait mériter le pécheur, seule la mort par substitution peut nous permettre d'être pardonnés. Et dans l'Ancienne Alliance, c'était un animal qui devait être égorgé. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus a accepté d'être le sacrifice. Jésus a accepté de mourir à notre place. Et lorsqu'il a institué la scène, Jésus dit par anticipation, en Matthieu chapitre 26, les versets 27 et 28, « Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Est-ce que nous nous rendons compte que la notion du pardon dans la Bible est une notion qui fait intervenir une mort, quoi qu'il arrive. Certes, pas la nôtre, mais il faut bien que quelqu'un paye, parce que ça reste une dette. C'est pourquoi, pour nous qui sommes après la croix, nous prions avec confiance aussi. Pardonne-nous nos offenses, parce que Christ a déjà payé le prix pour toutes nos dettes. Oui, Christ est mort pour nos péchés, pour effacer ces dettes, de telle sorte que chaque jour où nous péchons, nous puissions demander pardon et compter sur la fidélité de Dieu pour nous pardonner. Et l'apôtre Jean nous incite à cela, à confesser nos péchés, lorsqu'il dit en 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il, Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Comment une personne qui se rend compte qu'elle a offensé son Père céleste ne se présenterait-elle pas à lui pour lui demander pardon ? Si nous avons pris conscience, je ne parle même pas des péchés involontaires, si nous avons pris conscience d'un mal que nous avons commis à l'égard de Dieu, notre Père céleste, comment ne nous présenterons-nous pas devant lui pour lui demander pardon ? Et puisque chaque jour nous péchons, c'est une réalité, c'est chaque jour que nous demandons à notre Père céleste de nous pardonner. À quand remonte notre dernière demande de pardon à notre Père céleste ? Pardonne-nous nos offenses. C'est la prière d'un enfant à son Père. Et quel que soit le mal que nous avons fait, nous avons toujours cette possibilité qui nous est donnée par notre Père de venir à lui, de lui demander pardon et d'être pardonné en vertu du sacrifice de Jésus. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous faisons de belles prières pour demander pardon. Dieu nous pardonne parce que du sang a été versé. L'expiation a été accomplie. Le pardon nous est accordé. Je vous ai dit que le péché est un sujet douloureux pour notre vie. Mais grâce au pardon, étant allégé de nos dettes, nous pouvons ainsi profiter encore de cette douce communion avec notre Père. Oui, c'est par rapport à notre relation à lui que nous lui demandons pardon. Oui, pardon, je veux continuer à être en communion avec toi et je reconnais le mal que j'ai fait contre toi. Pardonne-moi. En nous enseignant à prier ainsi, Jésus nous montre notre besoin quotidien de pardon. Quotidien. Cependant, je dois bien avouer que dans mes prières, je prie « pardonne-moi mes offenses », mais sans mentionner la suite. Si la prière du Notre Père doit changer ma manière de prier en 2026, je crois que ce sera sur ce point-là. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. D'emblée, cette demande de pardon adressée à Dieu nous engage davantage. Nous demandons à notre Père de nous pardonner comme nous le faisons à l'égard des autres. Du coup, d'où cette question, est-il juste que Dieu ne nous pardonne pas si nous ne pardonnons pas aux autres ? Est-il juste que Dieu ne nous pardonne pas si nous ne pardonnons pas aux autres ? Eh bien, Jésus le dit, il l'affirme. Il affirme quelques versets plus loin, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Et là, peut-être ça change déjà notre manière d'approcher cette demande de pardon. Je demande pardon à Dieu tout en lui disant « comme moi, je suis en train de pardonner à d'autres ». Sommes-nous tout aussi disposés que notre Dieu à pardonner ? Et Dieu n'a-t-il pas raison de ne pas pardonner si nous retenons nous-mêmes notre pardon à l'égard des autres ? Mais en fait, celui ou celle qui a véritablement expérimenté le pardon de Dieu ne peut que pardonner à son tour. Celui ou celle qui vraiment sait ce que c'est que le pardon de Dieu à son égard ne peut que pardonner à son tour. Quelqu'un a écrit « Refuser de pardonner, c'est renoncer à imiter Dieu. C'est vouloir être plus juste que lui. » Est-ce qu'il est vrai que refuser de pardonner à quelqu'un, c'est renoncer à faire comme Dieu qui pardonne? C'est vouloir être plus juste que lui, plus rigoureux que lui. Je pense que ça nous fait réfléchir. Au fond, puis-je vraiment demander pardon à Dieu si moi-même je ne suis pas disposé à pardonner? Est-ce que je pourrais me permettre de venir devant Dieu, de lui demander pardon pour moi, alors que moi-même je ne suis pas prêt à pardonner à la personne qui m'a offensé? Notre cœur est parfois tellement dur que nous sommes capables de ne pas pardonner à une personne qui nous demande pardon. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? De ne pas pardonner à une personne qui vous demande pardon, qui présente ses excuses. Mais parfois, notre cœur est tellement dur, plus dur que celui de Dieu. Pardonner dans le sens biblique, ce n'est sûrement pas minimiser la faute. Ce n'est pas dire « ce n'est pas grave » comme si le péché de l'autre n'était pas un péché. C'est un péché. C'est une offense. C'est une dette. Mais Christ a payé pour ce péché que l'autre reconnaît. Si la dette a été payée, qui suis-je pour ne pas pardonner? Est-ce que je veux être plus juste que Dieu? Et c'est vrai que j'aurais bien des choses encore à dire sur le sujet. Et que si vous souhaitez prolonger la discussion sur le pardon, je suis tout à fait disposé à en parler avec vous. Mais je voudrais encore dire une chose. Dieu nous accorde son pardon quand nous reconnaissons nos offenses à son égard. Dieu nous accorde son pardon quand nous lui demandons pardon. Et cela me conduit à comprendre que je ne peux accorder mon pardon qu'à une personne qui reconnaît son offense envers moi. Je ne peux accorder mon pardon qu'à une personne qui reconnaît son offense envers moi, qu'à une personne qui me demande pardon. C'est en tout cas tout le sens du mot « comme » dans la prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puisque nous demandons pardon à Dieu et qu'il est prêt à nous pardonner, de la même manière, notre manière de pardonner aux autres, eh bien, c'est forcément par rapport à une demande de pardon. Sinon, je ne comprends pas le comme. Je ne comprends pas de la même manière qu'eux. Nous demandons pardon à Dieu comme nous-mêmes, nous pardonnons aux autres. Et je vois encore cette scène où un parent prend deux enfants à la main et apprend à l'un des deux à demander pardon. Allez, dis pardon à ton frère ou à ta sœur. Et peut-être que l'enfant ne fait que répéter ce que le parent lui a dit. Mais il apprend en même temps que s'il a causé du tort à quelqu'un, il doit le reconnaître et demander pardon. Et souvent, ça s'arrête là. Mais le parent ne devrait pas s'arrêter là. Il devrait apprendre à l'enfant offensé à accorder son pardon. Allez, dis à ton frère ou à ta sœur, je te pardonne. Tout ceci n'est qu'une illustration pour nous rappeler comment pratiquer le pardon. Déjà entre nous, au sein de l'Église. Si Jésus enseigne à ses disciples à prier de cette façon, c'est aussi pour leur enseigner à pardonner. Et comme je le disais plus tôt, comment envisager de poursuivre une relation sans le pardon? Et dans l'Église, comment envisager de poursuivre nos relations fraternelles sans le pardon? Apprenons de nouveau à savoir demander pardon quand nous avons offensé l'autre et à accorder notre pardon quand quelqu'un reconnaît ses torts. Est-ce qu'on vous a déjà dit « je te pardonne » ? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit « malgré le mal que tu m'as fait, je te pardonne » ? En tout cas, lorsque nous venons à Dieu, que nous reconnaissons nos fautes, que nous-mêmes nous sommes disposés à pardonner à ceux qui nous ont offensés, nous pouvons avoir l'assurance d'entendre de la part de Dieu, je te pardonne. En vertu de ce que Jésus a accompli pour toi. Alors je ne veux pas m'arrêter sur cette demande-là, alors je veux poursuivre avec le deuxième besoin qui est sa délivrance. Oui, venons-en à cette dernière demande du Notre Père. On a vu qu'il y en avait six. Cette dernière demande qui n'est pas sans lien avec ce que nous venons de voir. En effet, si nous demandons pardon à Dieu, c'est que nous reconnaissons avoir péché contre lui. C'est que nous reconnaissons que nous avons un problème avec le péché, avec le mal. Et plutôt que de lutter par nous-mêmes pour faire face au mal, eh bien nous apprenons par cette prière à nous en remettre à Dieu. Quand nous péchons, nous avons besoin du pardon de Dieu. Et quand nous sommes tentés, nous avons besoin de sa délivrance. Quand nous avons péché, nous avons besoin du pardon de Dieu. Et quand nous sommes tentés, nous avons besoin de sa délivrance. Et là aussi, je dois vous avouer que je ne prie pas souvent dans ce sens, à tort. Pourquoi je ne prie pas souvent dans ce sens ? Peut-être par orgueil, me croyant suffisamment fort pour faire face à toute tentation. Peut-être par négligence, n'ayant pas conscience de ma vulnérabilité ni des intentions du diable qui veut me faire tomber. En tout cas, la prière du Notre Père me fait réfléchir à cette demande en particulier. Jésus nous montre que nous ne sommes pas forts, en fait. Un pécheur ne peut que pécher. Un pécheur ne peut que céder au mal s'il est livré à lui-même, s'il ne compte que sur lui-même. Nous sommes tellement vulnérables face au péché. Il suffit d'examiner nos pensées à longueur de journée. Qui pourrait dire que ces pensées sont toujours pures ? Qui pourrait dire qu'il ne songe jamais à commettre le mal ? C'est pourquoi la dernière demande de la prière nous montre très clairement de quelle manière nous devons rechercher de l'aide. Sinon, nous serions dans une situation totalement désespérée. Comment comprendre cette première partie de cette demande ? Ne nous expose pas à la tentation. Je crois que c'est un véritable cri au secours envers Dieu. Ne nous expose pas à la tentation. Et là, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu serait l'auteur de la tentation. Jacques, effectivement, dit dans son épître que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Notre Dieu n'est jamais complice du mal. Jamais. Au contraire, il combat le mal. Au contraire, il déteste le mal. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de demander ? Eh bien, dans cette demande entière et complète, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ce que nous demandons à Dieu, c'est de nous secourir dans les moments où nous serions tentés par le mal. Nous le demandons avant même de nous retrouver dans une situation où la tentation serait trop forte. Ou encore, nous demandons à Dieu qu'au moment de l'épreuve, en grec c'est le même terme, épreuve ou tentation, qu'au moment de l'épreuve, nous ne tombions pas dans le péché. Que nous ne nous mettions pas à dire à Dieu qu'il est injuste ou qu'il n'est pas bon avec nous. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et il est possible aussi de comprendre, délivre-nous du malin. C'est le même terme en grec, mal ou malin. autrement dit le diable. Oui, s'il y a bien quelqu'un qui peut nous secourir, nous délivrer du tentateur, c'est bien notre Dieu qui lui est supérieur, notre Dieu qui est plus puissant que lui. Et déjà, le lecteur de l'évangile de Matthieu a vu cette supériorité divine quand Jésus a résisté à chaque assaut du diable au chapitre 4. Là, nous sommes au chapitre 6. Mais déjà au chapitre 4, nous voyons Jésus face à la tentation. Et Jésus a parfaitement réussi là où nous avons tant de fois échoué face à la tentation. Malgré les incitations du diable, Jésus n'a pas cédé au mal. Il a toujours triomphé. Jusque sur la croix, où les gens l'incitaient à descendre. Lisons en Matthieu 27, verset 42, « Si les rois d'Israël, qu'ils descendent maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Tentation. Tentation pour celui qui se trouve sur la croix et qui souffre. Mais Jésus n'a pas cédé au mal. Il n'est pas descendu. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, il est en mesure de nous secourir. Il a été tenté en tout point, sans commettre de péché. Il est capable de nous secourir. Il est plus fort que le mal. Que ce péché qui nous colle à la peau et dont nous ne pouvons pas nous débarrasser complètement. Il est plus fort que ça. Si nous faisons face à des tentations en ce moment qui causent toujours notre chute, qui nous entraînent vers le même péché, rappelons-nous cette demande. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Rappelons-nous que nous pouvons demander cela si nous sommes entraînés à toujours pécher de la même manière. Notre Dieu Tout-Puissant peut véritablement nous secourir dans ces moments-là. Par son Esprit, il nous donne la capacité de résister au mal. L'Esprit de Christ qui est en nous nous permet de résister au mal comme Christ a résisté au mal. Sans le secours de son Esprit, la bataille est perdue d'avance. Sans demander à Dieu, la bataille est perdue d'avance. Et je peux en témoigner puisque j'ai tant de fois échoué. Tout comme je peux témoigner qu'à chaque fois que je me suis appuyé sur Dieu, en comptant sur son intervention, j'ai été délivré du mal. Je peux aussi le témoigner. Nous avons cette promesse dans la parole de Dieu que nous ne traverserons aucune épreuve, aucune tentation qui soit au-delà de nos forces. Et pourquoi ? Pourquoi c'est ainsi ? Parce que Dieu est du côté de ses enfants, prêt à leur venir en aide. C'est ce que nous lisons en 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » À quelle tentation faisons-nous face en ce moment ? À quel péché sommes-nous particulièrement vulnérables ? Et ce n'est pas forcément le même pour tout le monde. En lisant, en relisant cette prière, en l'étudiant en profondeur, je vois que je passe à côté de beaucoup de choses quand je n'adresse pas ces demandes à Dieu. Et en particulier, cette dernière demande. Je passe à côté d'énormément de choses. Si nous sommes lucides par rapport au mal, à commencer par celui que nous commettons, nous ne pouvons pas faire l'économie de cette demande à notre Père Céleste. Oui, nous comptons sur notre Père pour nous garder du mal. Lui seul en a la puissance. Nous ne pouvons pas trouver de secours auprès d'un autre pécheur. Lui seul peut nous secourir. Lui seul peut nous accorder la force si nous reconnaissons que nous ne sommes pas forts. Et voici l'erreur que j'ai souvent faite face à la tentation. Croire que j'étais assez fort. Je peux vous garantir que si vous croyez que vous êtes assez fort, vous tomberez. Parce qu'un pécheur ne peut que pécher quand il est livré à lui-même. Mais un pécheur que Christ a libéré du péché, un pécheur qui marche par l'Esprit, peut résister à la tentation. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qui nous réconforte. De savoir que durant cette semaine, chaque jour de cette semaine, nous pouvons demander à Dieu, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car tout seul, nous ne sommes pas forts. Et qu'en Église, nous puissions aussi le demander. Parce que même aussi nombreux que nous ne sommes pas forts face au péché. Alors que Dieu délivre son Église du mal et de toutes les ruses du diable. Le Notre Père et la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Les 6 demandes que nous avons étudiées nous montrent que nous avons déjà tout dans cette prière. À la fois des demandes qui concernent Dieu et des demandes qui concernent nos besoins. Et nous avons vu aujourd'hui 2 de ces besoins qui s'expriment au quotidien. Le pardon de Dieu et son secours face au mal. Et nous savons que Dieu nous entend et qu'il exauce ses prières puisqu'il nous a enseigné cette prière. Nous savons qu'il l'écoute et qu'il l'exauce. Si nous demandons pardon à Dieu comme nous pardonnons aux autres, il nous pardonne. Nous pouvons en être assurés. Si nous demandons qu'il nous délivre du mal, Dieu le fera. C'est tellement réconfortant de savoir que notre Père exauce de telles prières parce qu'il n'abandonne pas ses enfants. Et dans certains manuscrits, la prière se termine ainsi, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et je dis dans certains manuscrits, parce que ce n'est pas présent partout, et c'est pour ça que vous avez des crochets dans cette version. Mais cette déclaration concernant Dieu est juste. Oui, c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Et surtout, ça nous permet de terminer cette prière en regardant à lui. Parce que, au bout du compte, aussi fragiles sommes-nous, nous nous en remettons à celui dont le règne est éternel, à celui dont la puissance est infinie, à celui dont la gloire est sans égale.